Et bien, comme je vous le disais à 9h, aujourd'hui je reçois un invité, Guillaume Villoutré. Bienvenue.
Merci, bonjour.
Est-ce que ça va ?
Impeccable, merci.
Est-ce que tu t'entends bien dans le casque ?
Je m'entends, tout va bien.
Très bien. Alors tu es ici aujourd'hui pour nous parler de ce premier roman intitulé, alors Dominus ou Dominus ?
Dominus,
Dominus
en bon latin.
On le prononce bien en latin, d'accord,
c'est
Dominus.
Ça, mais ça s'écrit Dominus, oui.
Exactement. Le dernier, Séraphin, donc, qui est ton premier roman.
Tout à fait.
Un roman jeunesse où on suit donc les aventures d'un jeune garçon de 11 ans qui se retrouve transbahuté dans un nouveau monde et qui va devoir affronter beaucoup d'aventures puisqu'il est le dernier Séraphin.
C'est ça.
Voilà, donc c'est un livre plutôt fantastique. On peut le dire. Est-ce que c'était important, c'était quelque chose qui t'a parlé de te mettre à la place d'un enfant de 11 ans ? Parce que c'est pas forcément un exercice facile.
Déjà, j'ai toujours travaillé auprès d'enfants. Donc en effet, ça me paraissait, quand l'envie d'écrire un roman s'est imposée, c'était clair et net qu'il fallait que ce soit à l'adresse d'un public jeune. Et le fait de démarrer par un enfant, je me suis beaucoup posé la question de l'âge de l'enfant en question, pour évacuer la question Harry Potter qui reste la référence du fantastique, et je me suis dit bon, allons-y un bon coup, et donc je lui ai donné le même âge que Harry Potter, même si l'évolution est quand même complètement différente de ce personnage au fil de l'aventure.
Alors on va le dire, c'est quand même le premier tome d'une trilogie.
C'est ça.
Voilà, donc il y aura une suite. Et cet enfant qui s'appelle Nino doit sauver le monde, un monde qui n'est pas le sien.
C'est ça.
Puisque il est humain, mais il se retrouve dans un nouveau monde. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce monde dans lequel il se trouve ?
Alors, j'ai voulu m'amuser à faire apparaître un enfant qui ne croit pas du tout en Dieu ni dans aucune divinité dans un monde où, de façon concrète, les dieux existent. Donc déjà, je trouvais ça assez amusant d'apporter ça. Et après, c'est un univers que j'ai créé à partir des choses que je connais, tout simplement, essentiellement tourné beaucoup autour du jeu vidéo. Il y a beaucoup de références au jeu de Zelda, en particulier le village où il se retrouve au tout début, qui s'appelle le village de Tori, est une espèce de représentation du village Kokiri dans Zelda Ocarina of Time. C'était c'est une grande source d'inspiration et y a beaucoup de petits détails comme ça qui sont donnés, parce qu'en fait l'idée c'est que Nino est catapulté dans un monde qu'il ne connaît pas, mais il y a des choses très ressemblantes avec le monde d'où il vient, et il va devoir essayer de comprendre quel est le lien entre ce monde fantastique qu'il ne connaît pas et le monde d'où il vient.
Donc il se retrouve à devoir sauver ce fameux monde qui est tout nouveau pour lui. Et c'est quoi exactement un séraphin ? Est-ce que tu peux l'expliquer ?
C'est un ange. Donc Nino se retrouve à être l'ange gardien d'un peuple. Donc ce monde est divisé en 5 parties. Il y a 5 dieux qui se divisent 5 territoires et qui doivent lutter contre des adversaires qui s'appellent les Nocturnes. Et donc chaque dieu possède un séraphin, c'est-à-dire un être un petit peu plus puissant que les autres, qui va être doté de pouvoirs magiques un petit peu plus conséquents. La différence, c'est que normalement, le séraphin est accueilli par son dieu quand il arrive dans ce monde-là. Mais Nino, non. Il est arrivé comme une cerise sur le gâteau. Il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait pas pourquoi, il ne comprend rien. Ça fait aussi partie de sa quête d'essayer de comprendre pourquoi il est là, puisque au final, même si c'est pour un enfant de 11 ans, après ça reste, c'est un roman, c'est une histoire,
oui, bien sûr.
Ça reste perturbant pour lui au départ, il va quand même finir par s'attacher à ce monde et son objectif va être de comprendre un petit peu de quoi il en retourne et qui est c'est une déesse qui s'appelle Dryade qui l'a envoyé. Qui est cette Dryade ? Ça, c'est quelque chose qu'il découvrira en fin de roman.
D'accord, donc il y a quand même celle de découvrir en fin de roman. S'imagine que tu as déjà prévu la suite.
Oui.
Est-ce que peut-être tu nous fais un petit teaser sur...
J'ai mis 5 ans à écrire ce roman parce que je l'ai écrit dans la... J'ai fait l'histoire dans la globalité des 3 tomes pour être sûr d'avoir une ligne conductrice. Je ne voulais pas avoir le syndrome de Lost où on commence avec une idée. Je pense que c'est pas bon de commencer quelque chose sur une idée. Il faut vraiment savoir où on va et après rajouter des petites touches. Donc j'ai imaginé. Je sais comment l'histoire va finir. Ça n'empêche pas qu'il y aura sûrement des choses que j'improviserai. C'est plus ou moins thématique. À l'origine du roman, il devait y en avoir 4, puis j'ai un petit peu diminué la sauce. Mais c'est 3 univers qui vont être complètement différents. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui tourne autour de la forêt, de la nature, des grandes plaines, etc. Et donc dans le tome 2 qui va arriver, on va être dans quelque chose d'un petit peu plus sombre, un petit peu plus souterrain. Voilà. Après, je ne veux pas, en dire trop parce que de toute façon, je commence juste l'écriture là depuis un mois.
D'accord.
Ça avance bien. Mais après, je ne veux pas m'avancer sur quelque chose. Si, je ne veux pas me bloquer dans une idée. Voilà, si jamais il y a quelque chose. Mais l'idée, c'est ça. C'est quelque chose d'un petit peu souterrain. Et dans le deuxième, on sera plus, dans le dernier tome, on devrait plus être autour de quelque chose de maritime, autour de la mer, etc. Donc, c'était des éléments en fait, que je me suis amusé à mettre. C'est pareil, hein, c'est référence à des jeux vidéo. C'est des choses qu'on retrouve énormément dans les jeux d'aventure, les RPG, le monde du désert, le monde, on les retrouve aussi dans les Mario, les choses comme ça. Donc c'est un grand clin d'œil puisque le héros Nino est un grand fan de jeux vidéo, il adore tout ça. Donc il arrive dans ce monde où il a les codes en fait de toutes ces de toutes ces petites énigmes et de toutes ces choses là qui lui rappellent énormément de son monde. Voilà.
Donc tes références, c'est plutôt sur le jeu vidéo. J'imagine que tu as aussi des références littéraires. Est-ce que, bon, assez classiquement, j'imagine que Le Seigneur des Anneaux, ça doit faire partie de tes références.
Ça en fait partie.
Voilà, et est-ce que tu en as d'autres, peut-être moins connues, des choses que tu aurais envie de faire découvrir justement aux auditeurs, de dire « lisez ça ».
Alors, si je peux recommander quelque chose qui m'a beaucoup aidé à écrire, c'est un roman qui s'appelle « Le nom du vent » de Patrick Rothfuss. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors c'est moins accessible dans le sens où, pareil, c'est l'histoire d'un jeune homme, mais ouais, c'est quand même plus adressé aux adultes. C'est quelque chose de très soutenu. C'est un monsieur qui met un temps fou à écrire ses romans, mais il y met une précision qui est absolument dingue. Et il se trouve que j'ai découvert cet auteur au milieu de l'écriture de celui-ci, et en fait, il m'a fait reprendre quasiment à zéro parce que ça m'a vraiment soufflé. Après, pour les plus jeunes, même si la qualité est un peu moindre, il y a Maxime Chatham aussi qui a l'habitude d'écrire des romans plutôt noirs, des thrillers, qui a écrit 7 tomes de romans pour enfants qui s'appelle Autre Monde, qui est assez sympathique et qui se laisse lire, en tout cas pour des ados. Et après, évidemment, Harry Potter, comme je disais tout à l'heure, Le Seigneur des Anneaux, bien que je me méfie du Seigneur des Anneaux, je l'ai relu il y a peu. J'ai essayé de pas tomber dans les grandes descriptions qu'il y avait, qui peuvent parfois être très longues et voilà. Mais vraiment, Patrick Rothfuss, Le Nom du Vent, il est censé faire une trilogie, mais déjà son deuxième tome est en deux parties. Et c'est des bouquins de 800 pages à chaque fois, mais c'est un régal. Enfin, c'est vraiment, je recommande chaudement.
Justement sur ce travail de la langue, parce que quand on écrit, il faut faire attention au public auquel on va s'adresser, sans forcément tomber dans le gnangnang quand on fait des livres jeunesse. Est-ce que c'était important, il y a eu un vrai travail d'écriture sur faire attention à comment on écrit, que ce soit accessible, mais en même temps que ce soit fluide et exigeant?
C'est ça, c'est la première chose, c'était quelque chose de fluide qui se lit facilement. C'était la première chose que je me suis fixée. Donc en écrivant, je revenais beaucoup vers les romans que je connaissais pour essayer de décrypter un petit peu cette façon d'écrire. Mais je tenais quand même à ce qu'il y ait un langage un petit peu soutenu. Je pense que quand on écrit pour des jeunes, on n'a pas le droit à la facilité, et au contraire, on a encore moins droit à l'erreur que quand on écrit pour des adultes. Et il faut faire très attention. Donc, moi, je travaille beaucoup, comme je disais, auprès de jeunes. J'adore la vulgarisation scientifique. Et en fait, il y avait cet aspect-là qui m'a entraîné dans l'écriture, c'est-à-dire simplifier des choses, expliquer de façon claire. C'est très difficile d'expliquer à des enfants des choses qui, pour nous, paraissent simples. Par exemple, répondre à la question « c'est quoi Internet ?» à un enfant, comment ça marche le soleil, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que je fais au quotidien, donc c'est venu assez naturellement, mais ça a été le plus gros de l'écriture, c'était pas tellement les idées en fait, c'était vraiment la mise en page, la mise en forme, et du coup l'auto-édition, parce que le livre pour le moment est auto-édité, m'a beaucoup aidé, parce qu'il est sorti le 21 juin, un petit peu en catimini. Il m'a permis de le distribuer physiquement à mon entourage, aux collègues, aux amis, etc., et d'avoir un premier retour en fait sur ce bouquin qui était positif, mais qui m'a permis de corriger quelques coquilles aussi d'orthographe, donc c'était plutôt pas mal. Et donc ça arrive, oui, en effet, on a beau relire 40 000 fois, il en reste. Et donc là, du coup, j'ai pu retoucher un petit peu grâce à l'auto-édition, j'ai pu retoucher ce roman, et donc maintenant, normalement, il est dépouillé de fautes, enfin j'espère, après on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais c'était vraiment ça l'idée, c'était de ne pas me tromper de public, et vraiment de quelque chose qui se lit facilement, mais avec des mots de temps en temps un petit peu soutenus qui peuvent inciter soit à chercher dans le dictionnaire, soit à se questionner sur le sens. Quoi. Alors plus Wikipédia pour les plus jeunes que le dictionnaire, mais bon.
Oui, le dictionnaire, c'est important. Garder les dictionnaires à la maison, ça peut toujours servir. Justement, parlons de l'auto-édition, puisque on le sait, publier un livre, c'est déjà pas facile. Quand c'est un premier roman, on peut se retrouver face à beaucoup de portes closes. Alors, on sait qu'il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées hein, dans le fantastique, qui sont plus à même de publier ça. Est-ce que tu as envoyé 40 000 lettres ou est-ce que tu t'es vite dit non, je vais le faire tout seul ?
Oui et non. En fait, j'ai le problème, c'est une question de budget derrière. C'est-à-dire qu'envoyer son manuscrit, envoyer 40 lettres recommandées manuscrits, ça a un coût. Et c'était un petit peu compliqué. Alors, j'en ai envoyé pas mal. J'ai eu des réponses. J'ai eu des réponses positives, mais qui n'étaient pas satisfaisantes sur le contrat, où vraiment les choses paraissaient bizarres. Et d'autres où c'était les délais d'impression qui étaient... un petit peu aberrant. On m'a proposé une impression en 2021. Je l'ai proposé l'an dernier, en 2019. Moi, je ne voulais pas attendre, surtout que voilà, on est sur une trilogie. Après, moi, je comprends les éditeurs qui soient frileux sur un nouvel auteur, d'autant plus qu'il s'inscrit dans une trilogie, donc c'est sûrement encore plus compliqué. Là, je suis en train de faire des démarches en fait, sur Internet, sur un site qui s'appelle Bookelist, qui est financé par Hachette Édition, qui va permettre que Dominus soit au moins présent sur catalogue dans plus de 5000 librairies. Donc normalement, les librairies comme Page et Plume et Anecdote devraient l'avoir dans le catalogue. Alors pour le moment, sur commande. Et là, je suis en train de voir avec Cultura et le Centre Leclerc qui devraient l'avoir en physique, normalement, j'espère, dans la semaine prochaine.
D'accord. Voilà.
Mais c'est un petit peu un parcours du combattant. Et en effet, moi, je ne suis pas vendeur, je ne suis pas commercial et j'ai vite baissé les bras sur... Ouais, sur tout ça, parce qu'on n'a pas de réponse. Enfin, 95%, il n'y a même pas de réponse. Que ça ne plaise pas, moi je l'entends, hein, y a pas de problème, mais qu'au moins les gens répondent, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, on fait la promo, on passe à la radio, on est gentiment invité, donc ça me permet de vous remercier.
Mais avec plaisir. Et justement, la question de l'édition, ce n'est pas juste publier un livre, c'est aussi la question de la distribution, de la visibilité de cet objet papier. Pour l'instant, on peut le retrouver où ?
Alors pour le moment, il est disponible sur Amazon, comme je vous disais. C'est pour le moment le seul site qui le référence, mais normalement dans la semaine prochaine, dans les librairies sur commande et sur les sites de vente en ligne. Donc il y a Hachette Édition, il y a Bookelist, il y a chapitre.com, la Fnac. Voilà, il sera disponible au moins à la commande et physiquement, donc Centre Leclerc et Cultura, normalement, j'espère.
Très bien. Prochaine. J'avais quand même une dernière question, peut-être sur Nino, justement, puisqu'il a 11 ans. Est-ce qu'on retrouve dans ce livre des questionnements adolescents aussi, puisque en dehors de sa quête en tant que héros du livre, j'imagine qu'il y a, il y a toujours un aspect personnel qui est développé. Est-ce que ça aussi, c'était une thématique de travailler sur les questionnements adolescents, comme on peut retrouver notamment dans Harry Potter. On voit l'évolution du personnage et les petites turbulences que peuvent amener cet âge-là.
C'était ce qui était prévu à l'origine et il se trouve que j'ai préféré dans ce tome-là, en tout cas, développer l'explication autour de ce monde. J'ai beaucoup plus orienté de ce côté-là et c'est plus dans la suite qu'en effet les questionnements, parce que évidemment Nino grandit et voilà, les questionnements de l'adolescence, mais je ne veux pas non plus tomber dans quelque chose de mélodramatique. Moi, je n'ai pas eu une adolescence extraordinaire, enfin, j'ai un enfant très heureux, hein, mais voilà, c'est pas une période qui m'a beaucoup plu et voilà, je veux faire quelque chose. Bon, évidemment, il y aura un petit peu d'histoire d'amour, il y aura un petit peu de quelque chose, mais ce ne sera pas l'aspect principal. L'aspect principal reste sa quête, pourquoi il est là et pourquoi il avance et il va retrouver des tas de choses. Enfin, dans le 2, on va déjà vers beaucoup de surprises. Donc ça, on fera partie, mais c'est pas l'axe principal quoi, du roman.
Est-ce que l'axe principal, c'était aussi te faire plaisir en développant ce monde, en pouvant créer un monde ?
Alors ça me paraît la base. C'est si on se fait pas plaisir, ouais, je me suis beaucoup fait plaisir en l'écrivant, même s'il y a eu des périodes... où j'en avais un peu ras-le-bol, et puis j'en profite pour remercier des amis, mon épouse qui a lu, relu et re-relu, qui en avait un petit peu ras-le-bol aussi. Mais oui, c'est vraiment une notion de plaisir de s'approprier quelque chose et puis de créer un monde. Je me suis vraiment beaucoup amusé à faire des recherches. Le village où il apparaît, qui s'appelle Tori, c'est les arches japonaises qu'on trouve dans les jardins et ça signifie l'entrée dans un nouveau monde. Il y a beaucoup de choses comme ça que je me suis amusé à distiller. Les noms de personnages aussi sont des noms qui sortent soit de la mythologie, soit de jeux vidéo, soit ils ont des consonances autour de la littérature. Et du coup, c'est autant de petites choses qui font tilt à Nino, parce que c'est des œuvres qu'il a lues ou qu'il a parcourues aussi. Et ça, c'était vraiment, ouais, c'était amusant à faire.
Bon, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas dit peut-être?
Il me semble pas, non, je vous ai déjà remercié, donc c'est bon.
Combien il coûte ce livre?
Alors, pour le moment, pour le moment, il est à 12 euros sur Amazon, faut okay. en profiter, parce que ça ne va pas durer.
D'accord.
Parce qu'on m'a expliqué qu'un livre comme ça, c'était au moins 19 euros, et qu'en France, l'exception culturelle faisait qu'on ne bradait pas la culture. Et donc, le site par lequel je vais passer, donc, comme je disais, Bookelist, chapitre.com, etc., le mettront à 19. Donc dès qu'il est disponible sur ces sites-là, je remettrai le prix. Donc si vous voulez l'acheter à 12 euros, profitez-en parce que c'est maintenant, pas pendant longtemps encore.
Donc on rappelle que Dominus, le dernier séraphin, c'est le premier roman de GRP Villoutré, on va le dire comme ça, hein, comme avec le pseudonyme. Il est donc à retrouver pour l'instant sur Amazon et bientôt hein, dans le centre culturel Leclerc ou encore chez Cultura. Cette interview sera à retrouver tout de suite sur le site de la radio, le www.bobfm.org. Et on pourra peut-être, si jamais on a des demandes, on vous fera suivre.
Avec plaisir.
Très bien. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu nous rencontrer. Merci. Pour nous parler de ce premier roman. Bonne journée.
Merci.